Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Si je pouvais sauver le monde, je sais pas si je le ferais. Des fois c'est bon qu'à jeter, foutu des fois c'est bugué. Toute la tyrannie, la lâcheté dont la terre est peuplée. Toute la jalousie, la traîtrise dont la terre est peuplée.
Détruire,
construire, détruire,
construire.
Détruire pour construire, hier je disparais, demain je renais.
Détruire,
construire, détruire,
construire.
Toutes les civilisations finissent par tomber. Du sel dans les yeux, la mer déchaînée sur la jetée. J'ai répandu les cendres, j'ai récolté ce qu'on a semé. Des roses et des chrysanthèmes, des violettes et des bleuets. J'ai implanté les graines, j'ai récolté ce qu'on a semé. Adieu l'époque où je me levais, whisky sur la table de chevet. Civilisation perdue, symphonie inachevée. Mois de décembre en été, je repense à ce qu'on était. Peut-être je me ferais baiser, je passerai pas ma vie à méfier. Je peux plus les calculer, je peux plus jamais faire de maths. De plus en plus crédible depuis que les Yankees, des Yankees rap. Sabre à la main, baby card. J'avance, deuxième acte, j'avance. L'homme s'ennuie et donc il a inventé le diable, j'avance. Maman connaît le nom des arbres, moi je m'en bats les couilles, superficiel. Je sais juste dire quelle marque est cool. J'ai grandi en ville, je connais que les endroits où faut boire des coups. Ma bande de potes, aussi t'en invite un, ils se ramènent tous. Casquette à la gloire des Bulls, Scotty Pippen, basket rouge. Bientôt je m'en vais, j'arrête tout. Satoshi Kon, perfect blue. J'essaye de boucler la boucle,
j'essaye de boucler la boucle,
j'essaye de boucler la boucle. J'essaye de te parler comme si j'en avais quelque chose à foutre.
Au sommaire de cette émission, réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, hein. Je vous rappelle que la revue Prime Cut est disponible sur le site des films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr, mais également chez son éditeur sur le site ecstasyoffilm.com. En plus, il y a des petites promos, je crois, en ce moment sur le numéro 1 de la revue Prime Cut consacrée à Michael Winner. Et bien, au sommaire de cette émission, aujourd'hui, une émission qu'on n'avait pas fait depuis quelques années. Je suis très content qu'on puisse la faire. Je l'ai proposée à mon équipe qui a été très enthousiaste, c'est l'émission Palmarès. Et oui, on va vous parler de notre livre de l'année, de notre disque de l'année, de notre film de l'année. Alors peut-être un peu triché, hein, parce que moi j'ai un peu deux films préférés cette année, donc je ne sais pas trop comment faire. Voilà. Et pour vous causer palmarès, donc je suis entouré des deux plus beaux chroniqueurs, hein, qu'on puisse trouver sur la place aujourd'hui, hein. Je veux bien sûr parler de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, créateur de l'écoute du cinéma diffusé sur RCA, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut dont il est le rédac-chef, est également présent dans ce studio. Salut Thomas.
Salut Damien, salut GG, bien évidemment, bien bonjour à toutes.
Eh bien les amis, je suis fébrile, je suis heureux, voilà, c'est vraiment le genre d'émission que j'adore, parce que c'est une émission où on parle de tout ce qui nous passe par la tête, de tout ce qui nous a plu. Et donc de tout ce qui nous a marqué durant cette année 2022. Alors ce sera la dernière émission de l'année, hein, mais vous rassurez-vous, vous nous retrouverez la semaine prochaine, hein. En 2023, vous nous retrouverez, on sera là, on sera toujours là, fidèle au poste ou fidèle au podcast, ça dépend comment vous nous écoutez. Alors, les amis, on a décidé de retenir tous, un livre, un disque, un film. Je propose à Damien de nous présenter peut-être son livre de l'année.
Je suis comme toi, Jérôme. J'avoue que pour mon livre de l'année, j'ai légèrement triché. Alors, moi, mon livre de l'année, bien évidemment, c'est un comics. Vous me connaissez par cœur. C'est du coup la saga Nightwing de Tom Taylor et dessinée par Bruno Redondo, publié chez Urban Comics, qui est l'éditeur français de tout ce qui est d'ici. Alors, j'ai déjà évoqué dans une ancienne émission, qui est celle où je faisais un hommage à Georges Pérez, qui est de nouveau dans ce tome 2. Je vous parlais essentiellement du tome 2, vu que je vous ai déjà parlé du premier. Mais je considère les deux comme une histoire, comme une seule histoire, qui est d'ailleurs toujours en cours. Alors, le tome 2 est incroyable, et la preuve, il a été multinommé aux Eisner Awards, les Oscars des comics, pour meilleure série en cours, meilleur lettrage, meilleur ancrage, meilleur artiste de couverture et aussi meilleur chapitre, qui est la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous en parler. Alors, c'est assez compliqué à décrire si on ne l'a pas sous les yeux, mais en fait, le chapitre 87 qui s'appelle Get Grayson et qui a été traduit en Cible Grayson, c'est un peu un plan-séquence en comics, c'est-à-dire tout le chapitre, c'est juste une histoire qui se déroule au fur et à mesure. Et l'une des particularités de cette histoire, c'est que le chapitre est accompagné d'un QR code mis en place qui nous permet en fait de voir numériquement l'histoire qui en fait forme une grande et longue page sur laquelle Nightwing se déplace au fur et à mesure. Donc le contexte, c'est que Dick Grayson, dans le précédent comics fin, s'est présenté officiellement à Blue Daven et va investir des sommes folles pour changer les choses, ce qui ne plaît pas à Blockbuster, mafieux qui a la main mise sur la ville et a donc mis sa tête à prix. Ce chapitre est donc une course poursuite, et elle est vraiment remarquable déjà dans le dessin, dans l'exécution et dans le rythme qui est maintenu du début jusqu'à la fin. C'est un comics aussi qui met en avant de nombreux crossovers qu'on avait déjà eu dans le précédent tome mais qu'on retrouve aussi. On a plein de personnages, on a Red Hood qui est Jason Todd, le deuxième Robin, ce qui permet de parler de relations fraternelles au sein d'une famille recomposée. On a Flash, Wally West qui est un des amis avec lequel il a grandi dans les Teen Titans, qui permet de parler d'amitié d'enfance qu'on a gardée en grandissant et comment elles ont changé. Mais surtout, et c'est la partie où je vais tricher, on va jouer un peu aux poupées russes avec un autre comics qui est Superman, qu'il rencontre, mais qui n'est pas Clark Kent, qui est son fils, John Kent, dont j'ai hésité à vous parler, mais au final, je me suis dit qu'on allait quand même commencer par Nightwing. Alors, vous connaissez Superman, Son of Kal-El, indirectement, donc c'est encore écrit par Tom Taylor, du coup, qui bosse sur les deux comics. Quel grand hasard. Et vous le connaissez déjà sans doute parce que vous avez entendu parler de lui dans les médias indirectement. Mais je ne vais pas commencer par ça. Alors, le comics parle simplement de John Kent, fils de Clark Kent et de Lois Lane, qui en l'absence de son père, celui-ci lui demande de jouer le rôle de Superman à sa place pour notre monde. Monde qui n'aime pas trop ce Superman pour différentes raisons. Surtout des raisons politiques. Déjà, les politiciens lui reprochent d'être jeune. On suppose qu'il est manipulé parce que c'est quelqu'un qui est pro-migrant, c'est quelqu'un qui voit des bateaux de migrants en train de se noyer aux portes de Métropolis et qui va les aider. Il participe même aux manifestations et il s'est fait arrêter, ce qui prouve que c'est pas vraiment un bon Superman. Il est également écolo, il préfère aider une immense créature maritime au bord de Métropolis à trouver un endroit dans l'océan qui n'est pas désoxygéné. Alors que le plus logique, ce serait qu'il la tue immédiatement. Et vous lui avez sans doute entendu parler, parce que de manière ironique, on ne lui reproche pas dans le comics, mais on lui a reproché dans les médias, parce que c'est ce Superman-là qui est homosexuel. Alors, je pense que vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux ou sur certaines chaînes d'information, mais ne vous inquiétez pas, on retrouve quand même un côté Oedipe qui est propre à tous les garçons, c'est que son petit ami, c'est aussi un journaliste comme sa mère. Voilà, c'était la grosse parenthèse, mais le chapitre crossover avec Nightwing en fait se retrouve dans les deux tomes, donc le tome 2 de Superman Son of Kal-El et de Nightwing, et c'est un crossover que j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément d'éléments que j'aime bien. On retrouve la première rencontre entre ce Superman qui est à l'époque Superboy et Nightwing, où Nightwing montre que Batman a bien une bat-poche dédiée aux sucettes pour enfants, juste à côté les fumigènes, ce qui fait qu'il s'est déjà gouré en affrontant le Joker, il lui a envoyé une sucette dessus à la place que ce soit un fumigène, mais aussi parce que John en parle comme son premier super-héros d'une nouvelle génération. Et j'aime énormément ce crossover entre les deux, encore une fois, parce que Dick Grayson, c'est pas n'importe qui. Enfant, il a affronté le Joker, ado, il a affronté Deathstroke, et aujourd'hui, adulte, eh bien, pour le savoir, j'imagine qu'on se retrouve l'année prochaine pour parler de la nouvelle crise dans le DC Univers avec la mort de la Justice League, et on va parler d'espoir et de nouvelles générations.
Ça suscite ma curiosité, ce que tu dis. Alors, non pas les sucettes de Batman, mais ce Superman Son of Kal-El, parce qu'il retrouve l'esprit du Superman originel de Jerry Siegel et Joe Shuster, qui était un Superman plutôt communiste, qui était plus violent parce qu'il tuait. Et il tuait les méchants patrons pendant que les ouvriers étaient en grève et qu'ils souffraient, tout ça et tout. Enfin, ce qu'on peut retrouver hein, dans l'intégrale Superman, on peut retrouver ces vieux comics-là où il était plus politique, Superman, à la base, et plus violent, plus radical, en fait, hein, qu'il ne l'a été, pardon, ensuite.
Il est moins violent, mais il se dirige vers quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'avant que ces comics soient publiés, il y a eu Future State, qui se passe 5 ans dans le futur. Et 5 ans dans le futur, on sait que bah, John a enfermé Metropolis dans une bouteille de verre comme Brainiac pour la protéger. Du coup, je ne sais pas vers où ça se dirige, mais c'est super intéressant. Et c'est aussi avec lui qu'on a changé du coup, la devise de Superman, qui était « Truth and Justice and the American Way », donc « Vérité, justice et la façon américaine », et qui a été remplacé du coup par « Truth, Justice and a Better World ».
Eh oui, la vérité, la justice et un monde meilleur, mon cher Damien. Alors moi, je vais vous parler d'un monde qui n'est pas meilleur, hein, qui est un monde qui est justement un monde un peu effrayant. Aussi un monde effrayant dans ce monde capitaliste qu'est le nôtre, hein, puisque aujourd'hui, c'est une BD dont je vais vous parler. Elle vient juste de paraître, mais elle est quasiment introuvable. Alors, c'est pas qu'on a voulu faire la BD de l'année, je précise. Hein, là, les trois rédacteurs, on s'est pas du tout entendu là-dessus. Ni les trois comics de l'année, parce qu'on va parler tous les trois de comics, c'est assez marrant. C'était pas du tout concerté. On a hésité sur des livres, on a échangé, mais il se trouve qu'en fait, les livres qu'on aime, bah, on les a chroniqués tout au long de l'année, quoi. Les livres sans images, je veux dire. Bon, je plaisante, mais les livres, voilà, les livres qui ne sont pas des BD. Et puis les BD qu'on aime, on en a aussi parlé. J'avais déjà dit, hein, voilà, que Okahei, par exemple, de Neyev, c'est une BD que voilà, j'aurais certainement mis dans mon top BD. Bah, il se trouve qu'on en a parlé dans une autre émission, donc voilà, celle du label 619 paru chez Rue de Sèvres. Et là, moi, je vais vous parler d'un livre très difficile à trouver. Pourquoi ? Bah, parce que les éditions Panini font imprimer leurs livres assez loin et que visiblement, il y aurait des containers bloqués dans des ports suite à une, comment dire, vous le savez, hein, un monde en guerre. On vit dans une Europe en guerre et il y a des containers bloqués dans des ports avec donc à l'intérieur de ces containers des exemplaires du Tombeau de Dracula volume 3, voilà, qui attendent les lecteurs. Donc il y a très peu pour l'instant d'exemplaires parvenus aux librairies. J'espère qu'au moment où vous écouterez cette chronique, il sera plus facile à trouver en librairie, parce que là c'est un peu un chemin de croix, tiens, on va dire ça comme ça, pour trouver ce Tombeau de Dracula tome 3. Le Tombeau de Dracula tome 3, qui est certainement, c'est un événement éditorial, parce que c'est certainement le volume le plus attendu dans cette collection d'Omnibus, hein, ce volume qui fait quasiment 1000 pages pour 80 €, hein, 944 pages pour être exact, qui est paru très récemment, qui est paru le 2 novembre 2022. Et il contient les épisodes de US de Tomb of Dracula 1 à 6, Dracula Leaves de 73, hein, de 1 à 13, Tomb of Dracula ça date de 79. The Legion of Monsters 1975 consacré à Dracula, le numéro 1. Le numéro 26 de Savage Sword of Conan, qui est de 74. Et les numéros 7 à 9 de Frankenstein Monster de 73, qui ça avait été publié en France dans l'écho des savanes spéciales USA, le numéro 23. La terreur de Dracula 1-3, j'avais déjà la terreur de Dracula 1-3, c'était déjà très dur à trouver. Et Frankenstein 4, et puis il y a encore d'autres inédits, enfin c'est le volume le plus attendu, puisque ces BD étaient quasiment toutes inédites. Écoutez Culture Prohibée. Les précédents volumes, c'était Marv Wolfman au scénario, Gene Colan au dessin, l'unique Gene Colan, et Tom Palmer pour ancrer, hein, Gene Colan, Tom Palmer, c'est le meilleur duo, c'est son meilleur ancreur à Gene Colan. C'est là que Gene Colan a donné le meilleur de lui-même. Vous savez, ce Gene Colan, ce dessinateur génial, capable de créer un monde comme ça, qui joue sur le clair-obscur, un dessinateur presque expressionniste, et on a l'impression que ces personnages sont réellement en mouvement. Enfin, pour ceux qui aiment Gene Colan, pour ceux qui aiment ce mythique dessinateur de comics, hein, de la grande époque, Gene Colan, c'est vraiment un dessinateur unique, génial, extraordinaire. Et Marv Wolfman a réussi à créer, comment dire, un Dracula très étrange. Ça a été le premier héros, hein, de BD un peu plus adulte, de Marvel, qui a eu une série aussi longue, en fait, qui a eu une série très longue, qui a rencontré un vrai succès. C'est le premier héros qui était un méchant, en fait. Voilà. Il n'y avait jamais eu de méchant qui avait eu une série aussi longue. En plus, un vrai méchant. Sans pitié, il est hautain, il est cruel, il est ignoble, et en même temps, il est fascinant, il est beau, il est attirant. Et on a envie de voir jusqu'où, parce que c'est notre fascination pour le mal, hein, qui s'exprime à travers cette BD, on a envie de voir jusqu'où il va aller. Il y a des épisodes un peu plus lambda, hein, où il va aller rencontrer le Docteur Strange, des choses comme ça, où il va rencontrer d'autres personnages de comics. Et puis, il y a d'autres épisodes qui sont voilà, totalement dans l'état d'esprit des années 70. Je parle évidemment aussi politiquement parlant, sexuellement parlant, avec évidemment la création d'un gentil chasseur de vampires à moitié homme, moitié vampire, qui est Blade, hein, qui est donc créé pour cette BD. Alors ça, c'était dans les deux premiers tomes de l'Omnibus, et dans ce troisième tome, on retrouve Marv Wolfman et Gene Colan pour une partie des épisodes, qui sont en fait une version encore plus adulte du Dracula, de Tomb of Dracula, qui est en noir et blanc. D'ailleurs, tout le volume là est en noir et blanc. Ce sont des BD en noir et blanc. Une version plus violente, plus érotique, avec des femmes nues, qu'on ne voyait évidemment pas dans les deux premiers tomes, qui étaient grand public, en fait, hein, qui étaient destinés... là, c'est vraiment pour un public adulte. On va retrouver aussi des épisodes, donc d'autres séries, hein, dessinées par John Buscema. Est-ce qu'on a le droit de ne pas connaître John Buscema, franchement, le mythique dessinateur de Conan le Barbare, scénarisé par Roy Thomas, et autre dessinateur mythique, on va retrouver Neil Adams aussi, hein, qui a donc également, comment dire, signé quelques épisodes de Dracula. Voilà, Neil Adams, immense dessinateur également. Donc c'est vraiment, bon, c'est plus adulte, c'est plus violent, c'est plus érotique que le des premiers tomes, mais bon, le noir et blanc est magnifique, le travail éditorial est fantastique, c'est quand même, cette intégrale, en fait, elle est plus complète que celle parue aux USA et tout ça, il y a plus de choses. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'elle s'arrache. Hein. Il y a aussi des acheteurs un peu partout dans le monde qui mettent la main dessus. C'est un véritable événement éditorial. Ça s'appelle Le Tombeau de Dracula, tome 3. C'est un omnibus paru chez Panini Comics et c'est mon Graal de cette année. J'étais parti chez Marvel, après qu'on ait été quelques instants chez DC Comics, mais on va retourner chez DC Comics avec notre ami Thomas.
Eh oui, GG a vendu la mèche. Moi aussi, je vais chroniquer un comics. Ce n'est pas dans mes habitudes. Hein. D'habitude, moi, je prends un roman, mais là, j'étais pris de court. Je n'ai pas lu de roman sorti durant l'année 2022. Donc, ce sera un comics et ce sera un Batman. Eh oui, alors là, par contre, vous me connaissez bien. Moi, c'est Batman. Donc, le Batman que je vais chroniquer là, il s'agit de Imposteur. Imposteur qui est scénarisé par Mattson Tomlin et mis en image par Andrea Sorrentino. Voilà, cela fait 3 ans que Bruce Wayne a endossé le costume de Batman afin de faire de Gotham une ville plus sûre et moins corrompue. À force de sacrifices et de persévérance, il a presque atteint son but. Mais quand un imposteur adopte son déguisement afin d'assassiner d'anciens criminels, c'est toute la police de Gotham qui se met à ses trousses, notamment l'inspectrice Blair Wong, déterminée à découvrir la véritable identité du justicier. On retrouve là une aventure de Batman bien sombre, bien violente, hein, comme on les aime depuis Frank Miller. Hein. Et ça parle de... bon, Batman, bien sûr, Bruce Wayne a bien sûr des états d'âme, hein, sinon ça ne serait pas Bruce Wayne, sinon ça ne serait pas drôle. Il a des états d'âme, mais en plus il tombe amoureux. Alors là, il est vraiment mal barré. Et de qui il tombe amoureux? Eh bien, de l'inspectrice Blair Wong, qui est déterminée à savoir qui est donc Batman. Et ça va bien sûr pas bien se passer, évidemment. Donc, ce Batman imposteur va un peu dans le sillon de creusé par le film de Matt Reeves, The Batman, que moi j'aime beaucoup personnellement, que je trouve qu'il est un des meilleurs films de l'année, et qui est aussi sombre, avec une mise en scène de Andrea Sorrentino, qui est assez originale parce qu'il change les tonalités suivant les séquences de la bande dessinée, suivant si ce sont de simples échanges, et quand c'est où les couleurs sont plutôt pastels, et quand ce sont des séquences d'action, c'est beaucoup plus sombre, avec des couleurs beaucoup plus vives, des noirs très marqués, des rouges très marqués. Enfin, c'est une très bonne BD qui parle aussi de la justice. À quel prix rend-on la justice ? Quelle justice ? Et aussi qui parle aussi de la corruption, parce que Batman, bien sûr, combat la corruption. On dit que Batman est un personnage de droite. Bon, je n'ai aucun doute là-dessus, mais c'est au moins un personnage de droite qui, lui, ne tue pas les criminels. Il est pour qu'ils aient un procès équitable. Et donc, c'est un peu ce dont parle Batman Imposteur. Et bien sûr, Batman Imposteur, avec un titre pareil, ça ne pouvait que m'attirer.
Écoutez Culture Prohibée spécial palmarès 2020.
Je vais un peu tricher, mais c'est juste pour parler de mon film de l'année. J'arrive pas à départager deux films, en fait. Voilà. J'arrive pas. Vous me direz ce que vous pensez de ces films, les copains. Moi, j'arrive pas. Bon, Thomas, tu m'as un peu donné une piste. J'arrive pas à départager ces deux films. Et le premier de ces deux films, c'est The Batman de Matt Reeves. Matt Reeves, qui est un réalisateur qui est. Alors, on a souvent dit qu'il était dans l'ombre de son pote J.J. Abrams. Mais c'est pas son parent pauvre, hein, pour moi. Pour moi, c'est un metteur en scène bien plus brillant que J.J. Abrams, qui, pour moi, s'il est un raconteur d'histoire bouillonnant d'idées, peut-être J.J. Abrams, enfin, bouillonnant d'idées, bon, ça se discute, hein, mais bon, en tout cas, c'est loin d'être un metteur en scène inspiré. Hein. Là, je suis désolé, ces films sont quand même souvent d'une platitude assez grande en termes de mise en scène. Hein. Je vais me faire des amis, là, je le sens. Mais vous savez tous que j'adore J.J. Abrams, j'ai déjà écrit dans des revues là-dessus, j'en ai déjà parlé dans l'émission, voilà, je suis pas fan hein, du metteur en scène en lui-même. Non, là, Matt Reeves, qui sort donc d'une franchise qu'il a très bien repris, celle de la planète des singes, hein, la dernière franchise qui l'a amené vers quelque chose de très fordien. Alors, petit défaut, peut-être un peu trop de musique dans ses films, mais enfin, c'est le défaut de ses films. Mais à part ça, parce que bon, c'est un peu le défaut de plein de films d'aujourd'hui, mais à part ça, c'est quand même un metteur en scène qui a réussi à amener des blockbusters vers autre chose. Il a même réussi, du coup, après ce The Batman, j'ai revu son remake de Morse, Laisse-moi entrer, là, et lui, il est bien, en fait, quoi. Bon, Morse est un chef-d'œuvre, hein, Thomas Alfredson, mais il arrive à faire autre chose. C'est intéressant. C'est un metteur en scène vraiment intéressant. Alors, moi, ce qui me faisait peur avec The Batman, jamais j'imaginais, quand on m'a annoncé qu'il allait y avoir Robert Pattinson, pour jouer Bruce Wayne, jamais j'imaginais que ça allait être l'un de mes films de l'année. Bah, jamais, mais alors jamais. Et puis, j'ai commencé à lire la critique, parce que je n'ai pas trop compris la critique, en fait. Il y a une partie de la critique qui a beaucoup aimé le film. Mais il y a toute une partie de la critique qui dit, bon voilà, le film a un gros ventre mou, le film est trop long. Alors oui, le film fait 3 heures. Bah, moi, quand le film s'est fini, que je suis sorti de la salle de cinéma, j'avais l'impression que ça avait duré un quart d'heure. J'étais complètement scotché, abasourdi par ce film. Donc, qui met en scène Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne. Alors, Robert Pattinson, j'ai rien contre lui. Hein. Je l'ai trouvé très bien chez James Gray. Voilà. Mais je trouvais qu'il n'avait pas le physique, en fait, pour jouer Bruce Wayne. Je me trompais parce qu'en fin de compte, il fait un très bon Bruce Wayne. Il y a Zoé Kravitz qui fait Catwoman. Il y a Paul Dano qui est un sphinx génial. Il y a Colin Farrell qui fait un pingouin aussi génial. Voilà. Enfin, il y a Jeffrey Wright qui est un des tout meilleurs inspecteurs Gordon qu'on ait vu à l'écran. Il faut le dire. Et Andy Serkis qui est un Alfred, ma foi, fort intéressant, même si c'est dur de passer derrière Michael Caine, parce que Michael Caine, c'est Michael Caine. Voilà, c'est indépassable. Et qu'est-ce qui se passe dans ce The Batman ? Alors, en plus, c'est ambitieux d'appeler le film The Batman, quoi. C'est le Batman, ça va être, c'est le mien, les gars. Bon, j'ai pas peur de le dire. Avec Batman le défi, avec le deuxième Batman signé Tim Burton, pour moi, ce sont les deux meilleurs Batman jamais réalisés. Voilà. Et le Matt Reeves, pour moi, est le meilleur de tous les Batman. Voilà. Mais j'aime beaucoup le Tim Burton, hein, mais pour moi, le Matt Reeves est le meilleur, presque à égalité avec le Tim Burton, voilà, parce que le Tim Burton est aussi vachement bien, même si c'est pas vraiment... C'est un Batman, mais plus un Batman Bruce Timm, quoi. Voilà, celui de Tim Burton, mais il est très bien. Et qu'est-ce que ça raconte ? C'est simple, hein, c'est un pur film noir, ça démarre par de la voix off, ambiance très sombre, photographie de Greg Fraser, très très réussie. Bon, Greg Fraser, ça commence à être le spécialiste des ambiances sombres à Hollywood, Rogue One, c'était lui par exemple, voilà. Et Rogue One qui est le meilleur Star Wars produit ces dernières années, je pense qu'on est tous d'accord. On est dans un film presque expressionniste, hein, qui retrouve l'ambiance du film noir des années 30, où Batman est un détective, un véritable détective qui enquête. Voilà. Et il va enquêter, il va se frotter, un peu comme ce que tu disais à l'instant, Thomas, à la corruption endémique qui règne dans cette ville. Et le film regorge de scènes complètement hallucinante. Et l'idée de génie du film, c'est que le Batman, donc, pas Bruce Wayne, hein, mais le Batman, quand il a son costume, il devient en fait l'incarnation du côté humaniste de cette ville. Mais en même temps, de la désillusion, du... Voilà, il incarne la ville, il est Gotham en fait, voilà. Ça, c'est génial, je trouve. C'est vraiment l'idée du film qui est transcendée dans le final du film, où il est... oui, je sais, il y a des critiques qui ont dit que c'était le sauveur blanc, voilà. Oui, mais Batman, c'est un héros de droite, et il est le sauveur blanc. Et il sauve, effectivement, la population de Gotham, mais il la sauve pas, comme dans cette immonde trahison de Zack Snyder, Man of Steel, il la sauve pas avec des valeurs virilistes, avec des valeurs chrétiennes, avec... Il la sauve de manière humaine. C'est ça qui est génial. Batman n'a pas de pouvoir de toute façon. Voilà. Mais c'est ça qui est assez génial. Il y a une scène de poursuite en voiture qui est la meilleure scène de poursuite en voiture que j'ai vue au cinéma depuis la scène de poursuite en voiture signée James Gray dans La Nuit nous appartient. Je n'avais pas revu de scène de poursuite en voiture aussi bien mise en scène. C'est transcendantal, cette scène de poursuite en voiture. Je l'ai revue. J'ai acheté le Blu-ray 4K. Là. Je me suis repassé la scène. Je ne sais pas. Il y a un truc qui ne s'explique pas, c'est la magie du cinéma, voilà. Et puis, il y a une autre idée de génie, c'est d'avoir repris ce qui aurait pu être une erreur, le Something in the Way de Nirvana, parce que Something in the Way, en fait, mais putain, pourquoi on n'y a pas pensé ? Quand tu écoutes les paroles de la chanson et tout, c'est Bruce Wayne, c'est Batman, c'est la dualité, c'est la noirceur, c'est le côté rebelle aussi du personnage de Batman, et tout est là. Donc, je trouve, voilà, que si tout... Je trouve en fait que c'est une sorte... En plus, il y a un côté nihiliste. Et ce personnage du Riddler, de l'homme mystère, qui est en fait en plus... qui amène un peu la population à se transformer, où on voit là aussi ce qui travaille actuellement les États-Unis, c'est-à-dire ces masses, hein, à l'attaque du Capitole, tout ça. On voit tout ça sous-jacent. c'est un peu, ça, c'est une version intelligente en fait, et pas manichéenne de ce qu'a essayé de faire Todd Phillips dans son Joker. Je vois là, on a une version intelligente, c'est subtil, c'est nettement plus malin que ce qu'avait fait, malin dans le bon sens du terme, hein, que ce qu'avait fait Todd Phillips dans son Joker, qui est un film maladroit dans ce qu'il montre. Je pense pas que c'est un film méchant, mais c'est maladroit dans ce que ça montre. Là, il n'y a pas ces maladresses, parce qu'il n'y a pas les gros symboles, il n'y a pas les gros sabots. C'est beaucoup mieux foutu. Et moi, c'est nihiliste, c'est Batman jusqu'au bout, c'est le comics, le vrai Batman, c'est le détective, le prince des détectives, c'est noir de chez noir. Il faut que Matt Reeves continue avec Robert Pattinson, il ne faut pas qu'il s'arrête, il faut qu'il continue. Il y a aussi une scène d'évasion du commissariat qui est un modèle de découpage, de mise en scène qui est fantastique. Je n'avais pas vu des blockbusters aussi bien filmés depuis je ne sais combien d'années. Donc les amis, pour moi, The Batman, ça enterre un peu le tout quand même cette année, n'est-ce pas ?
Je ne vais pas dire la même chose que toi, Gégé, mais moi je trouve que c'est ce que j'attends d'un film de super-héros, effectivement. Un traitement adulte, réaliste, sombre, et puis... En fait, le film est peu spectaculaire aussi. Oui. Il y a ça aussi. Bon, moi, j'adorais. Hein, j'adorais. Bon, tu as déjà dit tout ce qu'on pouvait dire sur le film. Pour moi, c'est aussi un des meilleurs films de l'année.
C'est mon deuxième film préféré de l'année. J'étais quasiment à te talonner là-dessus, Jérôme. Bah, moi, qui suis un grand lecteur de comics, je confirme ce que tu dis. C'est vraiment une adaptation de Batman. Mais généralement, quand ils sont adaptés, ils se les approprient un peu ce que fait Snyder. Il lui insuffle ces trucs. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on a pris le Batman des comics, qu'on l'a mis à l'écran. Et c'est jouissif du début jusqu'à la fin. Il y a des idées de mise en scène. Il y a des choix dans ce qu'il incarne, de ce que le méchant incarne. On a des réécritures de personnages monstrueuses et ça fonctionne. C'est vraiment ce qui est assez fou, c'est qu'on a une adaptation de super-héros vraiment qui fonctionne et on n'avait pas vu ça depuis des années.
Alors après, je vais pas accaparer le temps de parole, je vais juste aller très vite parce qu'il y a des copains qui ont envie de parler de leur film de l'année. Je vais juste vous dire que j'avais aussi choisi un film monstrueux qui est Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Réalisateur du chef-d'œuvre déjà El Reino. Vous le connaissez, Sorogoyen, c'est un grand metteur en scène, on en a déjà parlé dans l'émission. Il est même à l'origine d'une série vraiment excellente, aussi Antidisturbios, voilà. C'est un immense metteur en scène, c'est l'un des réalisateurs les plus intéressants qui sévit aujourd'hui en Europe. Et je vous conseille donc ce thriller très tendu, où Marina Foïs livre une prestation démentielle. C'est l'un des films les plus tétanisants, effrayants, flippants que j'ai vu cette année. C'est un couple un peu de bobos qui va s'installer en caricature, mais c'est un peu ça, qui va s'installer en Espagne et qui décide de faire de la culture bio et tout ça et tout, et qui pourrissent un peu avec leurs bonnes intentions les agriculteurs du coin, qui sont plutôt des rednecks, mais faut pas limiter ce film à un film de redneck, mais disons qu'ils sont plutôt des rednecks espagnols. Mais en fait, on comprend pourquoi aussi ils sont agressifs avec ce couple-là, parce qu'en fait, ce couple-là les a privés de pouvoir toucher de l'argent. Je vous dis pas comment, voilà. Mais leur obstination à vouloir faire ce qu'ils fait aussi que malheureusement, ils ont fait du mal aussi à ces gens-là. Voilà. Et c'est terrible. C'est un film qui décrit vraiment ce qu'est le monde d'aujourd'hui. C'est un film noir jusqu'au bout. C'est un film nihiliste. C'est voilà. C'est bon. Ceux qui ont vu aussi Que Dios nos perdone et de ce réalisateur sur un tueur en série savent de quoi je parle. C'est un réalisateur noir, sombre, voilà, et c'est un film incroyable avec une scène de meurtre parmi les plus tendues que j'ai vues ces dernières années. Donc je vais pas en dire plus parce que je vais laisser la parole aux autres. Je vais juste vous dire, précipitez-vous, c'est sorti en Blu-ray. Ça s'appelle Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Something in the air. Nico. Purify the soul. Would you do anything? It would torture you. Asbestas, que tu as beaucoup aimé aussi, je crois, Thomas, mais tu es venu avec encore un autre film, toi.
Oui, Asbestas, qui est aussi un des meilleurs films de l'année, selon moi. Mais moi, j'ai été ensorcelé par une femme. Et les mauvaises langues diront pas seulement une seule femme, mais j'ai été ensorcelé par Charlotte Colbert, qui a réalisé un film féministe, un film fantastique féministe, qui s'appelle She Will. C'est une production britannique. Charlotte Colbert, c'est une artiste, et là, elle signe son premier long métrage. dans lequel Alice Krige, oui, Alice Krige, le fantôme de Milburn, l'Arène Borg de Star Trek First Contact, incarne Veronica, une actrice de renom qui part en convalescence dans la campagne écossaise avec sa jeune infirmière Daisy. Et après, parce qu'elle a subi une double mastectomie. Alors, les deux femmes développent un lien particulier alors que des forces mystérieuses amènent Veronica à s'interroger sur ses traumatismes passés et surtout comment les venger. She Will, pour moi, c'est vraiment une excellente surprise. Un film au fantastique insidieux, à l'ambiance gothique et qui fait la part belle aux femmes en réhabilitant celles qui étaient alors désignées comme des sorcières. Charlotte Colbert installe une ambiance sombre qui pourrait commencer comme un film de maison hantée, avec une grande bâtisse gothique, mais qui va finalement ailleurs. Son écriture s'avère fine, évite les dialogues lourdement explicatifs, et elle accorde une totale confiance en ses images, son découpage et son montage, sans revenir lourdement sur l'histoire de cette région d'Écosse, ou même l'histoire personnelle de Veronica. Avec la complicité de Jamie Ramsey à la direction de la photographie, elle fait de ces sous-bois un endroit inquiétant d'une sombre profondeur, tandis que Clint Mansell achève de rendre le tout mystérieux avec une très belle partition qui magnifie le tout. Pourtant très présente, la musique est pourtant bien utilisée. Pourtant, quand il y a beaucoup trop de musique, ça m'énerve un peu, mais là, elle est vraiment très bien utilisée et accentue l'aspect mystérieux et mystique du film. La mise en scène très maîtrisée de She Will en fait une œuvre belle et envoûtante, traversée par la beauté d'Alice Krige. Ah, ici, elle excelle dans le rôle d'une femme qui fait face à son passé et qui doit aussi se réconcilier avec son corps, faire fi des dictats de la beauté pour enfin se retrouver. Non seulement She Will est une excellente surprise, mais peut-être aussi, selon moi, le meilleur film fantastique de l'année.
Et selon Dario Argento, qui l'a adoubé, le maestro quand même, donc quand on a le parrainage de Dario Argento, pour moi, ça vaut tous les Oscars du monde, mon cher Thomas. Donc, on te fait confiance pour ce film qui n'est malheureusement pas arrivé dans toutes les salles, qui n'est pas très bien distribué. Donc, Damien et moi n'avons pas pu voir à notre grand, grand, grand regret. Voilà. Et Damien, toi, tu es venu avec un film plutôt surprenant, d'ailleurs. Tu as décidé de nous surprendre.
N'écoutez pas cette chronique, sinon voilà ce qui va se passer. Vous allez avoir envie d'aller voir ce film. Je suis très content d'en parler. Le Visiteur du Futur, c'est l'une de mes web-séries avec laquelle j'ai débuté il y a très longtemps. On était en 2009 quand ça a commencé. Et là, 2022, ils sortent un film. Alors, c'est pas mon film préféré, mais c'est mon film préféré français de l'année. Alors, je vais faire un peu les récaps des saisons de la web-série pour en arriver là, et que vous voyez plus ou moins comment ça se fait. L'histoire, c'est celle de Raph, joué par Raphaël Descraques, un jeune homme désœuvré et placide, jusqu'au jour où il rencontre un mystérieux visiteur qui lui dit venir du futur. Le visiteur, joué par Florent Dorin, intervient dans des moments banals de la vie de Raph, prétextant sauver le monde en l'empêchant de faire certaines actions comme manger une pizza ou manger son petit déjeuner avec des céréales et de l'alcool. Cela commence à irriter Ralph au plus haut point, mais le visiteur n'est pas le seul à intervenir car bientôt la brigade temporelle fait son apparition, essayant de capturer le visiteur. Ralph, au milieu de tout ça, devra alors choisir entre la brigade temporelle et le visiteur. Alors, au vu de sa tenue et de ses manières, le visiteur est rapidement rebaptisé par les gens le SDF du futur, parce qu'il ressemble beaucoup. Et parmi les personnages supplémentaires qu'on a tout aussi colorés, il y a le docteur Henri Castafolt, joué par Slimane Baptiste Benoun, qui est un scientifique qui a créé des machines à son image avec un ego si fort que chacune des machines pense être le vrai docteur Henri Castafolt. Le seul moyen de les identifier, c'est simplement en descendant leurs manches de blouse de scientifique, car sur leur avant-bras, il y a un tatouage qui fait automatiquement bugger la machine, qui prend conscience qu'elle n'est pas un véritable robot. Alors, depuis des années, c'est un mélange d'humour et de science-fiction absurde. Au final, c'est vraiment une bande d'amis qui se sont réunis de base pour jouer, et aujourd'hui, si vous rematez la série, a fait très années 2000, mais reste drôle. Moins drôle qu'à l'époque, mais quand même drôle. La saison 2 commence à penser des réflexions ultra intéressantes. On a la famille Lombardi qui vient également du futur comme le visiteur et qui essaye de l'arrêter ainsi que son équipe pour éviter qu'ils changent de temps, parce qu'ils ont peur qu'avec les modifications temporelles, bah, leur famille n'existe plus. Dans la saison 3, on engrange une nouvelle menace, celle des missionnaires, qui sont une agence rivale, mieux équipée, qui débauche les anciens membres de l'équipe du visiteur. Dans le final, on apprend que les missionnaires sont financés par les entreprises voulant s'assurer un avenir et qu'ils ne font qu'arrêter les menaces temporelles que eux-mêmes provoquent. C'est une saison assez spéciale, car c'est la première financée par France Télévisions, et ensuite arrive la saison 4, plus anecdotique, mais on y apprend le vrai nom du visiteur, Renard. Alors, il y a plusieurs éléments cross-média, romans, mangas, BD, et aujourd'hui, 2022, le film, 13 ans après avoir débuté. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, de quoi nous parle exactement le film ? En 2555, dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme et son équipe capables de voyager dans le temps. Sa mission, retourner dans le passé et changer le cours des événements. Sa cible, Gilbert Alibert, un député sur le point de valider la construction d'une centrale nucléaire avec la société chinoise Axomaco, en dépit des protestations de sa fille. Cet événement dans le présent va causer une immense catastrophe dans le futur, un nuage radioactif tuant la moitié de la population mondiale tous les 70 ans. Alors, on retrouve le casting de base et les différents personnages que je vous ai présentés, mais en plus, on retrouve Arnaud Ducret comme député et Enya Barou jouant sa fille. Casting très pop culture française, parce qu'on a aussi Monsieur Poulpe, McFly et Carlito, ou encore Brian Cogendy qui avait fait la série. Bref, le film est pour tous. Si vous ne connaissez pas la web série, vous n'avez pas besoin de la regarder pour voir le film, qui est l'une de ses grandes forces. On retrouve beaucoup de mélange de genres. Du coup, c'est un film de science-fiction vu qu'on a le voyage dans le temps. On a aussi de l'action, dont l'esthétique des combats de la web-série du Visiteur du Futur sont gardés, ce qui, moi, m'a fait un flashback de rappel. On a un peu de drame avec la relation père-fille et qui est, selon moi, la raison pour laquelle la presse française l'a tant aimé. Et on a énormément de comédie, même si c'est compliqué de parler d'humour sans vraiment voir. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont ramené la blague des personnes qui se plaignent des zombies et qui est un propos zombiophobe dans l'avenir. On retrouve des éléments qui font référence à la web-série. Alors, si vous ne l'avez jamais vu, la musique d'introduction qui est magnifique, c'est le thème du Visiteur du Futur. Et on retrouve en fin du film la musique qui était la musique de base des épisodes, qui est la musique de REM, It's the End of the World, mais qui, du coup, avec le temps, avait été retirée parce que YouTube, les droits, tout ça. Alors, contrairement à la web-série, on a affaire à un vrai film. On voit où sont les moyens. Ils sont bien utilisés dans les décors, dans les effets spéciaux, même si certaines manquent de force. François Descraques, qui est le réalisateur et dont j'ai pas parlé, qui est là depuis le début, a choisi une héroïne pour le film à cause des cosplays féminins qu'il avait vu en convention du Visiteur du Futur. C'est un film ambitieux qui parle d'écologie et qui en parle bien. J'aime l'affrontement entre la fille et le père, elle voulant un avenir pour la terre et les humains, lui voulant aider sa région et surtout que sa fille ne manque de rien. Je trouve cependant la morale un peu sombre avec le final, l'idée que pour sauver l'avenir, on doit sacrifier une génération. C'est pas très joyeux, mais le climax en soi est sombre, même s'il y a des sous-entendus. Au final, c'est un très bon film, je dirais même excellent personnellement. Il montre deux choses. Le cinéma français peut encore faire de bons films de science-fiction et la relève Internet en a vraiment sous le pied.
Écoutez Culture Prohibée spécial palmarès 2022.
The Secretary of State for War has today received the following dispatch from Lord Chelmsford, commander-in-chief of Her Majesty's forces in Natal Colony, South Africa. I regret to report a very disastrous engagement which took place on the morning of the 22nd January between the armies of the Zulu King, Cetshwayo, and our own number 3 column, consisting of 5 companies of the 1st Battalion, 24th Regiment of Foot, and 1 company of the 2nd Battalion, a total of nearly 1,500 men, officers, and other ranks. The Zulus, in overwhelming numbers, launched a highly disciplined attack on the slopes of the mountain of Isandlwana, and in spite of gallant resistance, the column was completely annihilated.
Nous avons assez parlé de cinéma. Je vais vous passer la parole au plus grand spécialiste de musique de cette émission, qui me regarde avec un regard consterné quand je dis ça, et il est mort de rire, mon ami Thomas Roland.
Et oui, malheureusement, je ne pouvais pas choisir le nouvel album de Rihanna, qui n'est pas encore sorti, il ne sort que l'année prochaine. Alors cette année, on va continuer à parler cinéma, ceci dit, parce que j'ai choisi une musique de film. Une musique de film, la musique de Zulu, de John Barry. Zulu, c'est un film de Cy Enfield, un cinéaste américain qui vivait en Angleterre, parce qu'il a été bouté hors des États-Unis, parce qu'il était sur la liste noire. Il était soi-disant communiste, en fait, que bon, il n'était pas tant que ça. C'était moyennement. Zulu relate l'héroïque résistance de l'armée britannique face à l'armée Zulu qui venait de massacrer un régiment anglais. D'ailleurs, cet épisode sera plus tard relaté dans Zulu Down, plus connu en France sous le titre L'Ultime Attaque, que réalise Douglas Sirk en 1979, un film avec Burt Lancaster et Peter O'Toole, qui n'est pas super, mais que moi j'aime bien quand même. Mais Zulu, c'est largement supérieur. L'action se situe en janvier 1879 dans le Natal, en Afrique du Sud, face à l'armée Zulu. Stanley Baker et Michael Caine, dans son premier rôle, vont résister jusqu'à la faire plier. À l'origine, ce devait être Lionel Bart qui devait composer le thème principal du film et John Barry s'occuper du reste de la musique. Les deux hommes étaient amis, avaient déjà travaillé ensemble sur plusieurs films. Finalement, c'est John Barry qui travaille seul sur la musique du film. Et qui en compose aussi le thème. John Barry s'est inspiré de chansons zoulous, de guerre, de chasse, de mariage, pour composer la musique et notamment le thème principal. Le résultat sonne comme un hymne majestueux, aussi bien à la gloire de l'armée britannique que de l'armée zoulou, dépeinte comme constituée de soldats fiers, nobles et respectueux. Seulement, à l'époque, la bande-son des films n'était pas saturée de musique et la partition de John Barry ne faisait que 20 minutes, juste de quoi remplir la face A d'un 33 tours. Aussi, le compositeur déclina les différents thèmes du film à la sauce pop anglaise de l'époque. Zulu est le premier des 5 films sur lequel John Barry travaille et dans lesquels apparaît Michael Caine. Et les deux hommes restèrent de proches amis pendant jusqu'à la mort de John Barry. Hein. John Barry considérait la BO de Zulu comme une de ses compositions favorites.
Mon cher Damien, toi tu n'es pas venu avec une bande originale de film, bien qu'il y ait la tentation du cinéma chez le rappeur dont tu vas parler, voilà. Et tu es venu avec un type qui vient de la street, mais de la street de Caen.
Civilisation perdue d'Orelsan. Oui, je ne vais pas parler de bande originale de film. J'ai failli. Il y a eu un petit jeu qui s'est fait autour de plusieurs morceaux, mais j'ai décidé de parler de celui-là, parce que les civilisations perdues, ça me connaît un peu, plus ou moins. Alors, Orelsan, pour quelqu'un qui se disait perdu d'avance et qui se dit toujours perdu d'avance, je trouve qu'il a très bien tracé sa route. C'est aujourd'hui l'un des rappeurs les plus connus de France, et Civilisation perdue, en fait, est une réédition de son album de l'année dernière, mais augmentée de 10 morceaux. Donc, Civilisation de base, l'album original, est à part dans la carrière d'Orelsan, en tout cas jusqu'à La fête est finie. Avant, il parlait surtout d'histoires personnelles et il faisait des égotripes. Ici, la société, sa vision et sa critique prend énormément de place. Pour le citer, j'ai fait un album qui parle de la société et de ma copine, ce qui représente 80% de son album. Il parle de la société, mais il en parle un peu à la façon de Zola, avec un style assez naturaliste et impressionnant. Le morceau manifeste est incroyable. D'ailleurs, faire un morceau de 7 minutes sans refrain, en pure narration, montre que c'est un morceau unique, y compris dans l'album. Dans le morceau, il parle d'une manifestation qui lui permet indirectement de parler à la société française. De base, il y va pour y retrouver un pote, et au final, il se retrouve embarqué dans finalement les tensions du moment, et par défaut d'assister indirectement à la mort de la France, alors que le dialogue aurait pu éviter ça. On retrouve la situation délétère de notre pays dans L'odeur de l'essence qui a beaucoup tourné. On retrouve dans le morceau Baise le monde toute l'éco-anxiété présente dans une grande partie de la jeunesse et du reste des Français. Il évoque aussi sa relation, notamment dans Bébé Bois, où il met en avant les problèmes d'alcool de sa femme. Son style est extrêmement différent d'avant, moins de punchline, moins percutant, mais pas doux pour autant. Et en même temps, on retrouve des styles, quelque chose qui lui est proche, voire qu'il a un temps d'avance. Par exemple, dans le morceau du propre, certains ont perçu de la Jersey Drill, qui reprend les thèmes et l'esthétique de la drill, du coup des armes, de la drogue, des morts et de la violence, mais il ajoute des rythmes dansants, voire des samples d'anciens morceaux. Personnellement, j'ai beaucoup aimé l'écho qu'on retrouve dans l'album, qui commence avec Shonen et qui se termine avec Civilisation, mais dont les deux morceaux ont en fait le même texte en conclusion. Civilisation perso ajoute 10 morceaux qui sont exactement dans le même ton, dans Toujours perdu quand même. Il reprend les notes de Seul avec du monde autour, ce qui permet de faire écho. Il l'avait déjà fait dans la version augmentée de La fête est finie, épilogue. De plus, dans A, la France, on retrouve l'absence de discussion et les tensions politiques que ça crée. Il est vert, mais en avant encore ses limites et les problèmes d'alcool. Et je finirai en parlant du dernier morceau, On a gagné, qui est une exaltation de sa carrière et de son public, mais surtout des gens qui l'ont entouré et qui finit avec un côté saturation comme dans un live. J'aime Civilisation perdue, dont les morceaux supplémentaires me donnent un effet de palimpseste avant Civilisation, qui, en dépit des problèmes qui pointent, reste chargé d'espoir. Il ne reste plus qu'à rebâtir notre civilisation.
Je vais conclure cette émission. Alors, j'ai peu de temps, donc je vais aller vite, puis je vais laisser la place à la musique, surtout. Hein. Pour moi, pour un des albums de l'année, qui est signé d'un chanteur mort. Eh oui, non pas Pierre Bachelet, hein, mais Prince. Eh oui, Prince. Prince que je vénère, voilà. Et Prince qui est le type qui avait du talent, hein, dans les deux chanteurs noirs qui cartonnaient dans les années 80. Hein, puisqu'on ne dira jamais assez que Michael Jackson, en fait, ses albums réussis sont les albums produits par Quincy Jones, en fait. Sortis de là, il n'y a pas grand-chose. Allez, je vais encore me faire des amis. C'est l'émission où je me fais des amis. Mais non, Prince, un vrai génie, soyons sérieux, le kid de Minneapolis, voilà, et malheureusement mort trop jeune en 2016. Et depuis, ben, on ne cesse de retrouver des archives. Alors, on n'a pas fini d'en souper parce que Prince lui-même avait avoué qu'il avait, mais de son propre chef, hein, enregistré d'avance près de 500 chansons. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'écouter des inédits de Prince. Alors là, c'est un inédit qui n'en est pas vraiment un, hein, puisque c'est un album qui était disponible en bootleg depuis de nombreuses années dans des sons assez dégueulasses, en fait, hein, voilà, qui n'étaient pas terribles. Et là, il est sorti dans un coffret de malade. Les 20 morceaux sont là. Tout cela, il y avait version filmée avec. On peut aussi le prendre en vinyle. Enfin, c'est extraordinaire. C'est le live à Syracuse, hein, le fameux live à Syracuse. Alors, Prince arrive. Hello Syracuse and the world, my name is Prince and I've come to play with you. Et il va jouer avec nous, effectivement, pendant un long moment. Hein, il va jouer avec les 49 000 spectateurs du Carrier Dome. On est 7 ans après la sortie de son premier album, For You. Hein. Prince est quand même très jeune, hein, quand il donne ce concert. Il n'a que 26 ans et il démontre que c'est une bête de scène incroyable. Et on est, c'est sa plus grande période, hein, puisque là, il vient de sortir de la consécration avec l'album, le film Purple Rain, où là, il est totalement au top. C'est la période où un chanteur noir d'1m60 pouvait être un sexe symbole bisexuel, voilà, et faire chavirer l'Amérique, ce serait peut-être plus compliqué aujourd'hui. Ce pur génie, là, il est pour moi au summum de son talent. Et on va retrouver tous les titres mythiques de ses albums précédents. 1999, Little Red Corvette, Possessed, enfin voilà, et puis Computer Blue, Darling Nikki, enfin voilà, tous les titres géniaux de tous les premiers albums. Le live commence par une version de Let's Go Crazy à réveiller les morts, mais alors c'est pas possible de rester sans bouger en écoutant ça, et va jusqu'à une version de Purple Rain qui dure quasiment 20 minutes. Voilà, c'est juste le summum, c'est presque aussi bien que faire l'amour. Voilà, c'est un immense album live, l'un des meilleurs de tous les temps avec le Made in Japan musical, mais pour moi c'est un immense album live, et comme le live au Japon, des Temptations, pour rester dans quelque chose de soul, de funk, voilà. Donc, on va se quitter avec les premières notes
de ce Let's Go Crazy, parce qu'il faut être un peu fou, parce que c'est la fin de l'année, il faut qu'on s'amuse un peu. Il y en a marre de cette période anxiogène, morose, voilà. Donc amusons-nous un peu, chers amis, et puis l'équipe de Culture Prohibée vous donne rendez-vous en 2023. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit La Bête, Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens et rendez-vous l'année prochaine. I'm coming to get you, honey.